Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute! Moi, je suis très contente de te recevoir sur le podcast, Laurent, parce que bon, je te découvre au début de l'année, hein, quand on a eu une prise de contact sur LinkedIn. Avant ça, on ne se connaissait pas du tout. Et en fait, en faisant mes recherches sur toi, je me suis rendu compte que tu avais fait tellement de choses et que tu fais plein de choses et que tu as plein de projets. Et j'adore, en fait, les gens qui sont inspirés et créatifs dans ce qu'ils font. Donc, je te remercie de venir prendre du temps pour parler un peu de ton parcours, notamment avec ton podcast, mais pas que.
Bah écoute, merci Safia de me recevoir. Et moi, j'ai découvert ton parcours quand, pour des podcasts et des thunes, je m'étais dit, tiens, qui c'est que je verrais bien ? Et que sur mon petit Kindle, j'avais téléchargé un joli bouquin qui s'appelle Build Yourself, ou comment, alors que je ne sais plus comment tu l'as formulé.
Le tremplin pour construire un business rentable.
Voilà, c'est ça, autour du podcast. Et j'ai adoré ton bouquin et c'est de là que je t'ai contacté. Et voilà, tu as fait une belle intervention d'ailleurs, je vais te le redire. Je suis très, très content de parler avec toi et on a plein de choses à se dire.
Carrément. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir un peu d'où tu viens. Parce que j'ai vu que tu avais habité à Paris, tu avais travaillé au Royaume-Uni, que tu étais revenu ensuite à Paris, puis que tu étais parti dans le Sud. Mais avant ça, je me demandais un peu, c'était quoi ton histoire ?
Je vais essayer d'être très synthétique pour qu'on aille à l'essentiel. Moi, j'ai une double formation psy et école de commerce.
Ok, c'est original comme mélange.
Ouais, c'est assez rare. Et en plus, j'ai vécu 4 ans au Brésil et 3 ans à Londres. Donc voilà, j'ai pas mal passé de temps à l'étranger. Ce qui va pas m'aider pour ma retraite d'ailleurs.
Ouais.
Mais ça, c'est un autre sujet. Et derrière, voilà, j'ai trouvé à partir depuis 2005, j'ai travaillé dans les RH. Donc là, j'ai fait beaucoup de formation au management. Puis après, j'ai fait de l'accompagnement de salariés en transition de carrière à l'APEC. Et j'ai été chasseur de tête. C'est là où vraiment à Londres, c'est là où j'ai commencé à. J'étais un des premiers à utiliser LinkedIn dans mon cabinet en 2009. Inutile de dire 2009, LinkedIn, c'était genre what the fuck. Et justement, j'étais un des seuls à l'utiliser vraiment régulièrement. Et ça m'a donné un peu un petit avantage sur mes petits camarades. Et du coup, j'en ai fait un business en fait, quasiment de cette utilisation de LinkedIn, puisque j'ai commencé à faire des formations pour les recruteurs sur LinkedIn dès 2011. Je me suis lancé, on était deux à Londres. Puis j'ai fait la même chose en France et c'est devenu des formations pour les recruteurs sur les nouveaux outils. Et de fil en aiguille, j'en ai fait une conf, des salariés, j'ai fait une plateforme de formation qui est devenue l'école de recrutement. Et après quelques années, après 10 ans à monter cette boîte, je l'ai vendue aux salariés en 2021. Voilà, je t'ai fait vraiment la grosse synthèse. J'ai quitté la boîte parce que j'étais arrivé à un niveau de salarié ou niveau où C'était le premier à me dire, on voit que tu t'éclates plus dans ce que tu fais parce que je passais mon temps en réunion et je pense que j'ai un côté très créateur, slash créatif et qu'il fallait que je l'exprimais plus vraiment. Et du coup, ça crée des tensions parce que je n'étais pas dans ma zone de génie, entre guillemets, parce qu'on atteignait un chiffre d'affaires de 1,5 million. On allait vers les deux, mais on avait des soucis de trésor. Du coup, il fallait gérer ça au plus près. Je n'étais pas la meilleure personne pour le faire. Et je passais beaucoup de temps à faire des choses pour lesquelles je ne m'éclatais plus. Et voilà, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que je parte moi aussi de mon propre projet parce que je ne m'y retrouvais plus.
Et quand tu as pris cette décision de partir et de quitter cette entreprise, est-ce que tu avais déjà un plan B en tête ou pas du tout ?
Pas du tout. En fait, pas du tout, parce que quand ça fait 10 ans que tu travailles dans un secteur, tu as l'impression que si tu le lâches, bah, tu vas être à poil. D'ailleurs, j'avais tellement peur de ne pas savoir quoi faire. J'avais dit aux salariés, ah, mais moi, je vais retravailler dans le recrutement. Et que j'étais très connu dans le recrutement et que ça a créé beaucoup de tensions. Ils m'ont dit, attends, tu te fous de notre gueule, tu nous vends ta boîte. En plus, tu veux travailler dans le recrutement, tu vas nous siphonner le truc. Non, non. Ouais. Et du coup, j'étais un peu perdu. Donc, j'ai passé 3 semaines devant Netflix à regarder des mangas et des animés. Parce que en fait, j'avais besoin de prendre soin de moi. Et mes enfants se penchaient. Puis quoi, papa, tu regardes des dessins animés? Tu regardes ça toute la journée? Je dis, oui, je fais ça toute la journée, oui. Donc eux, on leur dit, non, tu regardes des dessins animés que le dimanche soir de 18h à 19h. Et que toi, comme un gros connard, en termes d'exemplarité, on est au top, quoi.
Oui, mais bon, en même temps, c'était le temps de digérer, oui. Je pense, toutes ces années que tu as passées. Puisqu'effectivement, tu as fait des épisodes sur cette histoire-là, sur ton parcours d'entrepreneuriat, la boîte que tu as montée, les difficultés qui sont hyper intéressantes et que je recommande vraiment aux auditeurs qui nous écoutent d'aller écouter pour aller creuser un peu plus. Mais je m'interrogeais quand même sur ton rapport au podcast. Est-ce que tu écoutais déjà des podcasts en 2021 avant de lancer ton émission? Comment tu as découvert ça et à quel moment tu t'es dit, tiens, je pourrais peut-être en faire un job?
J'écoute des podcasts depuis 2017 et vraiment beaucoup. J'ai surtout 2 podcasts que j'écoutais beaucoup. Donc un podcast américain qui s'appelle How I Built This de Guy Raz, qui est probablement le meilleur podcast d'interview d'entrepreneur. Et 2, j'écoute aussi beaucoup Génération Do It Yourself, un petit peu Pauline Léniaud, mais je ne suis jamais rentré dans son style qui ne me correspondait pas. Et voilà les 2 que j'écoutais beaucoup. Après, je papillonnais avec différentes, j'ai testé plein de trucs, hein, des podcasteurs qui parlaient seuls. Mais c'est vrai, je revenais souvent aux podcasts d'interview. Et surtout, j'ai commencé par la radio. Et je raconte tout le temps cette histoire, mais moi, je suis breton et je le dis à chaque fois, mais je suis breton et en Bretagne, nous, j'avais 12 ans, quand on allait en vacances, on faisait plein de bagnoles et mes parents, ce qu'ils mettaient, c'était la radio. Et il y a un type qui m'a particulièrement touché, c'est effectivement que j'ai déjà raconté, c'est Pierre Belmar, qui s'appelle Histoire Extraordinaire. Et quand ils allumaient la radio et que j'entendais ça, je ne ratais pas une virgule de ce qu'ils disaient. La façon de la diction, la narration, la construction de l'histoire, c'était incroyable. Tu vois, quand il fait « Et là, il s'est penché. » Et t'entends presque le gars qui se penche. Tu vois, il y a des gens qui ont travaillé leur talent de narrateur. Lui, il a vraiment travaillé à un point où il n'y a quasiment que sa voix. Et il n'y avait quasiment pas de travail sonore derrière. Et je trouve ça extraordinaire. Donc ouais, ça a été ma vraie entrée dans les podcasts. Ça a été la radio et des histoires. Pour ceux qui sont intéressés, tu apprends Pierre Belmar dans YouTube. Il y a encore plein d'histoires.
Oui, clairement. Mais moi, j'ai adoré justement lire que toi, ton objectif, c'est d'être le Pierre Belmar de l'entrepreneuriat et de partager plein d'histoires inspirantes. Et je m'étais du coup interrogée sur ton rapport finalement aux histoires. Est-ce que tu as toujours aimé en raconter? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris avec le temps? Est-ce que c'est dans un coin de ta tête et tu t'es dit peut-être qu'un jour ceci ou cela. En fait, je me suis vraiment interrogée. Alors, je sais que tu t'es formée dans le fait de raconter des histoires, dans la narration, etc. Et ça s'entend aujourd'hui quand on écoute ton podcast, c'est une qualité incroyable. Je sais aussi qu'au début, c'était pas forcément comme ça. Donc, je me suis interrogée sur toi, ton expérience d'utilisateur, on va dire, là-dessus, quoi.
Pour répondre à ta question, j'ai utilisé une image, une histoire, justement. Moi, j'ai 2 enfants, donc ils ont 7 et 9. Tous les soirs, à partir de 20h, on leur raconte une histoire. Donc, on se pose. Alors, il y en a un qui va me chercher. Petit ours brun. Alors, plus maintenant, parce que 7 ans, s'il savait que je disais ça, il me tuerait. Mais on va chercher d'autres histoires. Donc, il prend son livre et on s'assoit. Et on se met sur le lit. On raconte. Chacun a son histoire. Donc, Clémence a son histoire. Baptiste a son histoire. Et en fait, j'ai commencé à le faire donc, depuis 2016, vraiment. L'autre jour, ma femme me disait un truc hyper intéressant. Ma femme Gaëlle me disait... C'est fou, hein, parce que souvent, c'est moi qui l'ai fait. Elle me disait, mais j'ai entendu ton évolution entre les histoires que tu racontais en 2017 et maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire les petites voix comme ça, où je fais les personnages, je marque des temps. Elle m'a dit, mais c'est plus la même histoire. Et je me rends compte, c'est que quand d'autres personnes racontent les histoires aux enfants, ils le regardent genre, c'est chiant la façon dont tu le racontes. J'ai mis un niveau d'exigence que je m'étais mis dans les podcasts que je retrouve dans les histoires, en fait. Et les enfants le vivent aussi. Tu vois, je fais des voix, je fais des... Et là, tu vois, là, il arrive le gros monstre, il arrive comme ça. Et là, bon, c'est pas du tout une grosse voix, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et du coup, tu vois, c'est, je pense que le fait de jouer avec eux, de jouer avec les histoires, ça a aussi changé mon rapport. Ça a été un résultat global de travail sur un an et demi de formation, de fait que toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il y a un épisode qui sort. 1500 mots, du montage, de l'écriture qui prend une journée, mais quoi qu'il arrive, j'ai monté un épisode tous les jours pendant 2 ans. Et ça, je m'y suis tenu comme un chien, quoi. Et ça, c'est une super formation.
Complètement. Mais du coup, quand tu dis 1700 mots, c'est-à-dire que pour chaque épisode, c'est le minimum ?
Ouais, c'est grosso modo 1500 mots d'écriture.
D'accord, ok. Bon, justement, puisque tu parles de podcast, tu as lancé ton podcast, alors, qui s'appelle Aujourd'hui, il était une fois l'entrepreneur, mais qui s'appelait, il me semble, à son lancement. Alors, j'ai vu différentes infos. Soit c'était le croquis, soit c'était l'apprenti. Alors,
c'était l'apprenti au tout démarrage.
L'apprenti ? Ok. Donc, tu lances ton podcast L'apprenti avec pour objectif de partager des histoires d'entrepreneurs ou d'entreprises qui t'inspirent. C'est quoi ton objectif avec le podcast à ce moment-là ? Est-ce que tu as déjà des perspectives de monétisation ? Est-ce que c'est un tremplin pour autre chose ? Comment est-ce que tu vois les choses ?
Alors, j'ai aucun objectif à part celui de me faire plaisir. C'était le seul objectif et vraiment, j'ai démarré. Et même encore aujourd'hui, des fois, je me pose la question de est-ce que j'ai choisi le bon secteur ? On en a parlé pendant des podcasts et des thunes, mais la monétisation du podcast, ça reste toujours un sujet pour beaucoup. Et je pense que c'est un secteur où, tu vois, juste pour faire moi mes places à podcast et thunes, c'est 49 balles. Il y en a plein qui me disaient, mais je suis pas prêt à payer, etc. Et c'est important de faire payer un événement parce que les gens viennent, tout simplement. Du coup, pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai démarré avec l'objectif de me faire plaisir et de faire quelque chose de différent. Bon, je ne savais pas dans quoi je mettais la main, en toute honnêteté. C'est comme quand tu démarres une boîte, tu dis « Ah, si j'avais su ça, le travail qu'il faut derrière. » Si j'avais fait juste un podcast d'interview et non pas un podcast narratif avec des acteurs, j'aurais fait différemment parce que ça, c'est vrai que j'ai commencé par un podcast narratif avec moi qui mange un mot sur quatre. Versus, tu vois, il a fallu que je me forme, il a fallu que je travaille là-dessus. Et le truc qui a bien marché, et c'est le conseil que je donne souvent aux podcasteurs qui se lancent, c'est que je me suis lancé, j'avais 100 écoutes, et j'ai lancé en parallèle une newsletter. Et sur cette newsletter, je dis, voilà, les gars, je sais que vous êtes un certain nombre sur ma newsletter à m'écouter. Je vais ouvrir des créneaux dans mon agenda. Je voudrais avoir votre avis sur le podcast. Qu'est-ce qui marche bien ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Et je raconte tout le temps aussi cette histoire, mais j'ai pris une demi-heure, 3 mois après m'être lancé, avec 30 personnes qui m'ont fait un retour. 30 personnes, c'est génial, 30 personnes.
Oui, c'est énorme.
Et en fait, je me suis pris une énorme claque dans la gueule.
Parce que les retours étaient négatifs ?
Bah, les deux. C'est-à-dire, ouais, il y a du potentiel, c'est génial comme format, continue. Nous, on veut entendre le narrateur, mais tu manges un mot sur deux, il faut que tu travailles la narration, il faut que tu travailles l'histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est juste une série de chiffres. On ne rentre pas dedans. Quand je dis claque dans la gueule, c'est quand même plus négatif que positif, mais c'était salvateur.
Ouais, c'était constructif pour le coup.
Exactement, c'est très constructif. Et du coup, tous les points qui m'ont été remontés, je les ai tous un par un couverts. Problème de narration, ok, tous les jours, je vais me foutre un stylo dans la bouche et tous les jours, je vais faire une demi-heure, un quart d'heure en anglais, ils disent tongue twister, c'est-à-dire que je vais faire les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches. Et je faisais ça pendant j'en ai trouvé sur Internet plein de... Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, pour le problème de poser sa voix, j'ai fait une formation d'une semaine avec une formatrice qui m'a aussi défoncé. Elle me dit, c'est bien, Laurent, oui, tu sais très bien lire. Mais là, il ne s'agit pas de lire. Il s'agit d'interpréter, il s'agit de poser sa voix. Il s'agit de mettre de l'intention. Parce que quand tu racontes une histoire, si tu mets de l'intention, ta puissance narrative, elle est décuplée. Ensuite, j'ai fait des formations pour savoir écrire une histoire. Parce que ce n'est pas tout d'avoir une histoire, mais il faut la construire. Le démarrage, le milieu, la fin, une introduction, un épilogue, le moment, les cliffhangers, qu'est-ce qui se passe, comment tu fais entre... Parce que moi, c'est une intro où tu arrives dans un moment clé de l'histoire de la personne, tu repars de zéro, le contexte, et après, tu fais monter la sauce jusqu'au moment clé qui est introduit pour terminer sur l'épilogue Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il fait de cette histoire-là? Et tout ça, ça s'est construit avec le temps. Et j'ai aussi beaucoup travaillé avec des freelances pour les constructions d'histoires, type Boviot, Marie Camier, aujourd'hui Sarah Brevet. Enfin voilà, j'ai travaillé avec aussi des freelances qui ont travaillé avec moi sur les histoires. Et très vite aussi, j'ai dû me travailler avec des ingé-sons parce que l'idée, c'est que tu ouvres une porte à un bruitage, tu arrives dans un restaurant, tu as des bruits de restaurant. Donc, on a travaillé dans l'univers sonore pour avoir vraiment comme une série, une histoire. Et que l'univers sonore fait partie, raconte aussi une histoire.
Ouais, ça s'entend effectivement de la qualité du travail quand on écoute ton podcast. Et justement, ça m'intéresse un peu de savoir le process de production d'un épisode. Est-ce que tu sais combien te coûte un épisode aujourd'hui et combien de temps il te prend, mine de rien, avec tout ce que ça implique?
Grosso modo, un épisode, ça me coûte 2000 euros. Et encore, c'est pas très cher, c'est optimisé. Je suis monté plus haut que ça et parce que j'ai repris une partie de l'écriture, mais grosso modo, c'est 2000 euros. Hein. Pas d'un épisode, pardon. Non, 2000 euros le mois, parce que c'était 2000 euros.
4 épisodes.
Ouais.
Non, parce que si, c'est ça, ouais.
Ça peut aller entre 4 et 6.
Ok.
Mais grosso modo, c'est 2000 euros par mois, pardon. Et par épisode, je serais dans la merde. C'est-à-dire que le mec, il dépense déjà 8000 balles. Déjà que le mec, il a du mal à vivre, il dépense 8000 balles par mois pour les podcasts. Laisse tomber, je serais dans la merde.
Et ça te prend combien de temps de produire un épisode?
Mon temps à moi ou le temps cumulé?
Je veux bien les deux parce que tu fais quand même une grande partie du travail, mais certes, tu es aidé aussi, quoi.
Aujourd'hui, c'est une journée et demie par semaine.
D'accord.
Donc moi, et après, il y a une journée de docu plus une journée d'écriture, une journée et demie. Donc, chaque épisode, grosso modo, c'est au moins 3-4 jours hommes.
Et tu as quelle visibilité, du coup, sur tes épisodes? Là, tu as de l'avance sur combien de semaines, par exemple?
Sur 2 semaines, pas plus.
D'accord.
Énormément. Okay.
Ouais, c'est vrai. J'allais dire tu vis dangereusement, mais effectivement, ouais. Que ça doit être compliqué aussi de... Parce que vu que tu racontes des histoires, ça prend un temps fou. Je pense qu'il y a un énorme travail de recherche. Et ça limite aussi, du coup, la visibilité que tu peux avoir, quoi.
Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Alors, quand tu dis ça limite la visibilité que tu peux avoir, c'est-à-dire?
Mais tu as tellement de... J'imagine que parfois, tu dois lire des livres dans certains profils, etc. Et que du coup, tu peux pas, en fait, travailler sur différentes histoires en même temps, forcément, quoi.
Non. Alors après, moi, je lisais beaucoup, donc c'est un travail que je lis naturellement. Tu vois, de biographie, j'aurais adoré les biographies, les histoires, les machins. Donc, j'ai toujours fait ça hyper suivi. Donc, non, ça me prend pas... Tant que ça. Donc, feedback, amélioration, comme un produit, point par point, narration, problème de diction, histoire, sound design. J'ai fait même un audit. J'en ai fait un audit avec Mélanie Hong en 2021. J'ai fait un deuxième audit avec un petit gars que j'avais trouvé avec des premiers conseils. Enfin, j'ai vraiment travaillé l'amélioration de mon podcast permanente. Il reste encore beaucoup de travail encore à faire de mon point de vue. Mais voilà, c'est un peu le chemin que j'ai fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le podcast, il a petit à petit grandi en bouche oreille. Le fait que je suis le seul, quasiment, on est deux à faire ça en France, du podcast narratif avec des acteurs qui racontent des histoires. On est deux, il y a Guerre de Business et il y a moi. Le reste, c'est 90% de podcasts d'interview et 10% de gens qui parlent tout seuls avec un micro, quoi, pour faire ça. Donc ça, c'est différenciant. Cet axe-là, c'est différenciant parce que les gens qui cliquent dessus, ils font « Quoi ? C'est quoi ton truc ? Attends, mais je les arrête. » Mais en fait, encore beaucoup de gens croient que je suis un podcast d'interview, sauf quand je fais des gens morts. Et là, ils comprennent que c'est a priori, c'est pas le cas.
Ah oui, oui. Pour autant, il suffirait d'appuyer sur play. Je trouve que ton podcast est hyper immersif pour ça. C'est que dès que tu le lances, en fait, tu es transporté directement dans une histoire. Mais je comprends que les gens puissent ne pas être finalement pas éduqués, mais ne puissent pas connaître ce type de format qui n'est pas hyper répandu.
Non, c'est pas très répandu. Il y en a quelques-uns aux États-Unis, il y en a très peu en France. Évidemment, il y a les histoires pour enfants, hein, mais il y en a plein qui font ça. Mais dans les histoires business, on est deux, en sachant que l'américain, il est repris par des Français en France qui font des histoires. Mais voilà, c'est parce que pour quelle raison? Un, c'est coûteux. Deux, ça prend du temps. Et trois, et c'est le problème du podcast, c'est que il faut bosser pour arriver à des résultats, quoi. Et c'est surtout, ça prend du temps. Ça fait 2 ans que je fais ça. Et oui, j'ai plus de 20 000 écoutes, mais C'est un travail de dingue.
Ouais, et ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que tu mentionnais tout à l'heure le fait que tu avais demandé des feedbacks à ton audience, aux inscrits à ta newsletter. Et j'avais interviewé dans l'épisode précédent Anne-Claire Leca, qui donnait des exemples de podcasteurs qui avaient créé un espèce de comité éditorial pour pivoter leur podcast, et elle avait donné ton nom en exemple, et c'est quelque chose que j'avais trouvé hyper intéressant. À un moment donné, je ne sais pas si c'était parce qu'il y avait une baisse de statistiques ou que toi, tu avais besoin de nouvelles perspectives, mais pour entamer un pivot avec ton podcast, tu as réuni en fait des abonnés engagés pour récolter tout leur feedback.
Ouais, exactement. Alors, c'était deux phases en fait, ce que tu dis. C'est qu'il y a eu la première phase feedback, et quelques mois après, j'étais à 9000 écoutes mensuelles, j'étais content, là, je commence à décoller, et pof, je repasse à 6000. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'avais lancé un Patreon sur lequel j'avais une vingtaine de contributeurs, et je les ai réunis, je dis, voilà, aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et là, c'est pareil. Ça a été une deuxième phase dans mon itération. Ils m'ont dit, voilà. Ce que tu pourrais faire, c'est changer le nom de ton podcast. Il parle à personne, l'apprenti. On ne sait pas à quoi ça correspond. Il y en a un qui m'a suggéré « Il était une fois l'entrepreneur ». Ensuite, j'ai changé la cover, une cover qui soit plus cohérente. Ensuite, tu vois, à chaque fois, les feedbacks m'ont permis à chaque fois d'itérer et de passer le cran suivant. Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai passé une étape. Première partie, feedback audience, je suis passé grosso modo de 500 écoutes mensuelles à 2-3 000. Et puis à 6000, tu vois, et après de 9000, je suis allé à 15000, 15-20000, tu vois. Donc chaque fois que j'ai fait ce travail là, ça m'a fait passer des caps.
Et rétrospectivement, est-ce que tu as deviné pourquoi tu as eu une baisse d'écoute à un moment donné?
Parce que je pense que j'amenais des sujets qui intéressaient moins mon audience.
Ok, comment tu les choisis aujourd'hui, les profils des entrepreneurs?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ou des entreprises que tu vas aborder dans ton podcast?
Ben, en fait, je n'ai toujours pas trouvé la formule magique. J'essaye de trouver des histoires qui, moi, m'intéressent, en fait, qui me plaisent. Et en fait, sur cette nouvelle saison, donc la saison 3, je suis rentré à la saison 3, en fait, je commençais à m'ennuyer sur mon podcast. Et ce que j'ai fait, c'est que dès que je m'ennuie, je sais que ce n'est pas bon signe, c'est-à-dire que les gens dans mon audience vont s'ennuyer. Et j'ai réussi à trouver un nouveau format, en tout cas, d'autres formes d'histoires, c'est que j'ai des petites histoires courtes sur des épisodes précis d'une marque, par exemple. J'ai lancé l'histoire du Smiley. Là, on est en train de travailler sur l'histoire du lancement de l'iPhone, qui est folle parce que c'était dans le plus grand secret dans 2005. Il y avait des ingénieurs de Apple qui disparaissaient des bureaux du jour au lendemain. Et les gens se disaient, mais ils sont où? Et tu vois, ça fait une histoire avec un début, un milieu, une fin, plutôt que des grandes sagas d'un entrepreneur. Et le fait de faire des petites histoires précises comme ça, bah, j'ai trouvé ça super fun et ça m'a éclaté. On a lancé la saison 3 sur cette base-là, en fait. La première histoire, c'est l'histoire de l'album Thriller de Michael Jackson.
Oui, j'ai adoré cet épisode.
Et cet album, il a changé l'industrie du disque et des musicales parce qu'il a relancé les ventes de disques, parce qu'il a remis des nouveaux standards dans l'utilisation de la vidéo pour faire la promotion de la musique, avec notamment MTV. Il a changé énormément de choses. Et cette histoire-là, c'est une histoire business qui était hyper intéressante. Et j'adore, tu vois. Ce n'est pas l'histoire de Michael Jackson, mais c'est l'histoire d'un fait précis, d'une marque, d'un objet, d'un moment. Et j'ai trouvé ça cool. Et je me suis amusé et je me suis dit que les gens allaient s'amuser de l'autre côté.
Et les résultats ont été bons?
Bah ouais, ça continue. Alors, j'ai atteint un plateau, pour être tout à fait honnête, depuis 6-7 mois. Je suis toujours à 20 000 écoutes. Je n'arrive pas à dépasser ce plateau-là. Donc, je sais que les podcasteurs, c'est toujours des plateaux. Donc pour l'instant, je suis sur mon plateau à 20 000. Alors, il y en a plein qui disent « j'aimerais bien être à 20 000 », mais moi, j'ai une difficulté, c'est que je fais un podcast, mine de rien, je suis un podcast grand public, entre guillemets. Je n'ai pas j'ai pas un angle hyper précis, je suis pas du B2B, etc. Même si tu vois, et du coup, la monétisation, il faut que j'ai beaucoup d'audience pour que ça commence à devenir intéressant.
Et aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie, on va dire, pour gagner en visibilité et faire en sorte qu'il était une fois l'entrepreneur puisse, tu vois, avancer et continuer de croître?
C'est ce que je suis en train de faire avec toi.
C'est très bien. C'est exactement ce que j'allais te dire. Il faut aller chercher les autres podcasteurs.
En fait, alors, c'est pas seulement ça, mais il y en a quatre, si tu veux savoir, et j'ai pas le temps de les travailler toutes comme je voudrais. Mais premier objectif, c'est faire plus de cross-promo. Et en fait, moi, la problématique de mon podcast, c'est qu'étant un podcast narratif, j'ai pas d'interview, j'ai pas de place d'interview à proposer aux podcasteurs. Donc, ce que je vais relancer, ce que j'avais commencé à faire, c'est que je propose aux podcasteurs de faire des voix dans mon podcast, des voix de personnages. Et je les cite au démarrage en disant « Je remercie Safia Gourari de Build Your Podcast, Build Yourself » et tatati tatata. Et derrière, ce que je lui demande, c'est de me citer au démarrage d'un de ses épisodes. « Tiens, bah, la semaine dernière, j'ai fait un épisode sur le podcast de Laurent, si vous voulez aller l'écouter. » Donc, mon idée, ça serait de faire ça. Donc, cross-promo, première stratégie. Deuxième stratégie que j'ai fait très tôt, c'est que j'ai transformé tous mes scripts en articles systématiquement. Et du coup, je suis entre 6 et 10 000 vues mensuelles, ce qui est un très beau trafic. Quand tu tapes, alors le problème, c'est que j'ai des problématiques de SEO parce qu'en fait, je ne réponds pas exactement aux demandes. Donc, je suis en train de refaire mon site. Mais en tout cas, voilà, je me suis stabilisé, mais j'ai un très, très bon SEO. Du coup, les gens m'ont beaucoup découvert en tapant des noms d'entrepreneurs. Pendant très longtemps, j'étais numéro 1 sur Oussama Hamar avant qu'il se lance sur en étant sur tous les YouTube et autres. Mais pendant très longtemps, j'ai des premiers sur Oussama Hamar et plein d'autres entrepreneurs. Et ça me donnait beaucoup de visibilité. Ça continue de me donner sur d'autres entrepreneurs. Donc, stratégie SEO, Deuxio. Non, c'était plutôt Tertio d'ailleurs, plutôt que Deuxio. Je veux dire Tertio. C'était, et ça, je ne l'ai pas encore mis en place, c'était de faire plus des partenariats avec d'autres médias en leur disant, voilà, moi, je voudrais… Les Échos, Management, ou je ne sais pas, Les Capitales, j'en sais rien. Je vous fais un petit portrait d'entrepreneur, une petite histoire d'entreprise et en échange, j'ai de la visibilité parce que je n'ai jamais fait de RP avec ce podcast. Jamais. Et ça, je pense qu'il faudrait que je m'y attaque un peu plus à un moment donné pour aller chercher les gens qui me connaissent pas et aller chercher un public plus large, quoi. Donc ça, c'est vraiment… voilà. Et je ne sais plus. J'en avais un vraiment important que je n'ai plus en tête.
Il reviendra, mais j'ai une autre question en attendant.
C'est pas grave, ça va me revenir. Ouais, il reviendra. Il reviendra. C'est pas grave. Et LinkedIn, oui, pardon. Alors, je suis très actif sur LinkedIn. LinkedIn, c'est mon bijou depuis 11 ans. Et c'est là-dessus que je suis actif. Tu vois, là, j'ai lancé l'épisode sur Jacques Sadé. Avec un post LinkedIn qui a cartonné la semaine dernière et ça m'a donné plein de visibilité, etc. Sur le podcast. Donc, c'est vraiment LinkedIn, moi, mon joujou principal pour avoir de la visibilité, très clairement.
Et tu produis des épisodes qui sont des histoires d'entrepreneurs. Alors, certes, c'est hyper intéressant, mais tu as parlé justement récemment sur LinkedIn du fait que tu avais reçu une lettre d'avocat parce que une entrepreneuse dont tu as traité un aspect de sa carrière, de sa vie, dans un épisode, n'a pas du tout apprécié et du coup a exigé que cet épisode, enfin c'est une mise en deux parties, que ces épisodes soient retirés. Comment est-ce que tu gères, parce que du coup visiblement c'était pas la première fois, comment est-ce que tu gères ces demandes et ces exigences de la part de personnes dont tu partages l'histoire?
Alors, c'est deux cas particuliers. Je vais parler d'elle. Elle s'appelle Muriel Millet. Elle a avoué une tentative de meurtre sur un syndicaliste dans son entreprise. Donc, c'est une histoire d'entrepreneuse que j'avais mis dans la catégorie entrepreneur. Alors, attention, grosse guillemets, hein, méchant, voilà, qui sont des choses un peu… voilà. Et du coup, cette femme-là, et je crois, va rentrer… elle a avoué en garde à vue. Donc, il y a eu un certain nombre d'articles que j'ai repris sur lesquels j'ai fondé ma documentation pour raconter, faire deux épisodes. Effectivement, quand on tapait son prénom et son nom dans Google, j'étais le premier résultat à ressortir.
Très bon référencement.
Donc, du coup, j'étais très bon référencement et j'étais un peu le cahier de sa chaussure dans sa réputation, même si quand tu tapes encore aujourd'hui Muriel Millet, il y a France 3, il y a je ne sais pas quoi. Donc, elle est quand même, si tu tapes, je crois que c'est Muriel Millet, a avoué la tentative de meurtre sur son… Bref. Et du coup, elle m'a effectivement envoyé une lettre d'avocat pour demander à retirer ces épisodes sous plusieurs aspects, présomption d'innocence, diffamation et trois, gestion des données. Il y en avait quatre ou cinq, mais bref, il y avait. D'ailleurs, il est là, ouais, il est là-bas le dossier, je pourrais le ressortir, mais vu que tu ne fais pas de vidéo, ça ne sert à rien que je le brandisse. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est que, un, j'ai un podcast narratif, donc je ne demande pas l'avis aux gens. Je n'utilise que des données publiques. Deux, la limite de mon modèle, c'est que je fictionnalise quand même les dialogues, parce qu'en vrai, j'ai l'histoire, comment elle s'est passée en détail, mais je ne connais pas les dialogues. Donc, les dialogues sont réinterprétés à partir de la vérité. Donc, il peut y avoir, forcément, il y a des différences. Il n'a pas dit alors, mais j'aurais dû faire ça, mais il a peut-être dit énervé. Tu vois, je n'ai pas exactement la teneur, mais on fictionnalise, donc du coup, on dialoguise les trucs et forcément, il y a des inexactitudes, donc il y a une notion de risque. Et trois, le fait que je sois seul et je sois tout petit, j'ai pas pris un avocat parce que ça se défendrait, ce que j'ai fait, ça se défendrait. Mais sauf qu'il faut prendre un avocat, il faut y passer du temps, il faut y passer de l'énergie. Et je préfère killer les épisodes. Je les garde, hein. Mais je préfère tuer les épisodes plutôt que me battre et d'engager un avocat qui va me coûter 1 000, 2 000 euros. Et surtout, en fait, ce n'est pas que le coût, c'est aussi le temps que je vais y passer. Le vrai sujet, c'est que j'en discutais avec un type le jour qui me disait bah, « Vous n'avez qu'à vous mettre en collectif de podcasteurs. Dès qu'il y en a un qui est attaqué, vous avez un avocat avec lequel vous bossez tous. » Alors, honnêtement, c'est rare. Je fais partie des cas rares qui reçoivent des lettres d'avocats et pour lesquels ça peut arriver. Donc, ce que j'ai fait, j'utilise l'effet Barbara Streisand. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet Barbara Streisand, c'est le fait de... Je ne connais plus l'histoire dans le détail, mais grosso modo, je parle de ça, je montre la lettre d'avocat en barrant le nom, enfin en cachant le nom de l'avocat, évidemment. Mais le fait est que ça me permet de faire du buzz pendant 3-4 jours, d'avoir un max d'audience, de profiter de la... que les gens me découvrent avec cette histoire-là et après, je kill l'épisode. Donc, à chaque fois, je fais ça maintenant. Je kill l'épisode, j'en fais un buzz sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux et après, je prends le temps de le tuer et ça me permet, moi, de me faire connaître tout en perdant. Je perds effectivement de l'argent et du coup, du temps que j'ai passé sur l'épisode, évidemment. J'ai eu la même chose avec Marc Dorcel, l'entrepreneur dans le porno, pour ceux qui ne connaissent pas, très connu des années 80-90. Qui m'a aussi reproché un épisode. Donc, pareil, j'ai killé l'épisode après avoir essayé de faire du buzz. Ça a beaucoup fait marrer les gens sur LinkedIn. Et l'histoire, c'est que plein de gens allaient voir mon post, mais ne likaient pas.
Ah oui, bah oui.
Aïe, 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 aïe.
Et donc, en termes de vues, ça devait être bien. Mais en termes d'engagement et d'interaction, pas la folie, quoi.
J'ai tout compris. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Donc, du coup, le fait d'être un podcast narratif, ça... des avantages, des inconvénients. Gros avantages, hyper différenciants. Et du coup, ça me permet de... Quand les gens rentrent dans mon univers, j'arrive à fidéliser. Mais il faut qu'ils rentrent dans mon univers. Donc, j'ai un enjeu de découvrabilité, comme tous les podcasteurs.
Complètement, ouais. Et du coup, comment est-ce que tu rentabilises le temps et le coût de ton podcast « Il était une fois l'entrepreneur »
Alors, là, c'est la partie monétisation dont on a beaucoup parlé à Podcast et Thunes, hein. C'est un sujet qui me... En fait, j'ai fait cet événement juste pour répondre à ma problématique, comme d'hab.
C'était très enrichissant. Alors, un peu décevant, tu vois, j'imaginais qu'il y avait des cas à l'américaine, mais la vérité, c'est que c'est challengeant de monétiser un podcast.
Ouais, j'ai appris plein de choses. On va y revenir, mais au gros, je vais te donner moi plutôt ma stratégie de monétisation. J'appartiens à un label qui s'appelle Orso Media, déjà, qui vendent alors, de temps en temps des sponsorings. Donc, c'est le premier élément de monétisation. Donc, j'ai du sponsoring de temps en temps. Ensuite, j'ai développé des services à côté. J'ai développé aujourd'hui, je suis en train de développer deux services. Le premier, on m'a sollicité pour faire, parce que je viens du milieu du recrutement au démarrage. Donc, on m'a sollicité pour faire des podcasts internes autour de, c'est mon premier client, c'est Groupama, qui m'a dit, viens faire des podcasts internes pour faire des portraits de salariés à ta façon de 10 minutes en format narratif. Donc, je les interview et après, j'en fais des portraits qui seront diffusés en interne pour mettre en valeur des salariés en interne. Donc, vraiment un objectif interne. Et c'est marrant parce que j'ai d'autres contacts avec de grosses boîtes. CMA, suite à l'épisode que j'ai fait sur Jacques Saadé, m'ont contacté aussi peut-être pour faire quelque chose de cet ordre-là. On est sur des réflexions sur ça. Deuxième possibilité sur laquelle j'explore aussi beaucoup, là, j'ai deux clients. J'accompagne des entrepreneurs B2B où on va faire avec eux de bout en bout leur podcast. Eux, ils me disent, tu m'achètes le matériel, tu me donnes le matériel et le reste, je ne m'en occupe pas. Et c'est ce que nous, on fait, on les accompagne. Et après, il y a du récurrent sur chaque mois, ils font deux épisodes, ben c'est temps et on les accompagne tout au long de leur vie de podcasteur.
C'est une bonne idée. Moi, je connais des gens qui adoreraient ce genre d'offre.
Mais moi, on a une méthode hyper chiadée de A à Z, de la cover jusqu'à l'ingé son. Par contre, c'est que du B2B. Ce n'est pas Simone qui veut lancer son podcast ou machin. Et on les accompagne. Voilà, ça, c'est la deuxième offre que j'ai.
OK.
Enfin, sur la partie podcast. Donc, sponsoring, podcast, que ce soit marque employeur ou B2B, de bout en bout. Je ne fais pas de podcast de marque, par exemple.
Ouais. Mais comme moi, au final, parce que moi, je m'adresse qu'aux infopreneurs, tu vois, aux entrepreneurs qui vendent des produits digitaux. Ouais.
Bah voilà, moi, je m'adresse aux gens du B2B qui disent « Ah, je vais faire des podcasts d'interview, je ne sais pas comment faire. » Et méthode, ils ont pu… On a un Notion, chaque étape, on a tout écrit de Apple, machin, on fait tout. Vraiment, et il se met dans un fauteuil et voilà. Et la partie marque employeur. Et une fois que voilà, ça, c'est la partie monétisation. Et il nous reste une dernière partie. Je fais des événements. Alors, podcast est une, je n'ai pas gagné grand chose. C'est vraiment l'idée de réunir et d'apprendre. Je suis en train de lancer un deuxième événement sur le podcast qui, normalement, exclu pour Safia. C'est la première fois que j'en parle. Ça va s'appeler. Donc, il y a des podcasts et des thunes, donc parler de monétisation, et des podcasts et des boîtes qu'on veut lancer en octobre. Qui sera l'idée, c'est vraiment de se dire comment les boîtes peuvent utiliser le podcast pour se développer, pour grandir, que ce soit recrutement, marque employeur, marketing, etc. Et ça, sur le même format, avec du descendant et beaucoup d'ateliers.
Ok, mais il y a aussi Inspire sur scène.
Et dernier sujet sur l'événementiel, on a mis 4 entrepreneurs sur scène. Alors au départ, c'était civil, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup de boulot. Donc 4 entrepreneurs sur scène dans des théâtres qui doivent raconter leur histoire, qui racontent leur histoire. Avec le même format, la même idée de l'univers musical de Il était une fois l'entrepreneur. On a fait la première version à Nantes. Mon idée avec ça, c'est que c'est une source de monétisation. Un, c'est pas dingue, mais voilà. Deux, ça permet de faire parler du podcast ville par ville. Et il va y avoir un effet d'entraînement qui devrait se développer. Et trois, ça permet aussi de développer notre réseau dans plein d'endroits différents sur des entrepreneurs B2B. Donc, par rapport à nos autres offres, c'est assez cohérent. Mais ça demande beaucoup de boulot parce qu'on fait un vrai travail de mise en scène.
Ouais, mais alors aujourd'hui, t'as une associée, un associé ?
J'ai une salariée.
Une salariée, ok. Donc vous êtes deux à gérer tous ces projets.
Ouais, ouais, exactement. On est deux à gérer tout ça.
C'est du boulot, ça c'est sûr. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est ta créativité et ton investissement finalement dans tes différents projets. Et je me posais une question. Comment est-ce que tu gères le fait d'avoir plein d'idées ? Parce que moi, par exemple, j'ai du mal à savoir si l'idée que j'ai, c'est une nouvelle lubie ou si c'est vraiment un projet concret que j'ai envie de voir aboutir. Et je me demandais comment toi, est-ce que tu gérais le fait d'avoir finalement autant de projets, de créativité au quotidien ?
J'ai tout testé en fait. Ça fait 2 ans que j'ai vendu ma boîte et j'ai tout testé. J'ai fait des posts LinkedIn rémunérés, j'ai fait des formations au storytelling, j'ai fait du contenu pour des boîtes. J'ai testé tous les modèles économiques et je suis arrivé à la conclusion de ce qui… C'était une matrice entre ce qui m'intéresse le plus et ce qui va me permettre de vivre de façon pérenne, quoi. Et je suis arrivé pour l'instant, par rapport aux clients et aux sollicitations, c'est les 3 derniers projets qui sont les plus cohérents pour le moment, quoi.
D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est des gros projets, je trouve. Et puis ça change de ce qu'on peut trouver ailleurs, quoi.
Ouais, alors j'essaye. Ouais, la partie événementielle, c'est vraiment sympa, quoi. Parce que j'adore que ce soit sur le théâtre ou même podcast et tune. Tu vois, le fait qu'on soit tous retrouvés entre podcasteurs, c'est génial. Ça permet d'apprendre. Moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré plein de gens avec lesquels j'échangeais. Tu vois, c'est vraiment, en fait, encore une fois, je le fais pour moi. Et si les gens sont contents, c'est presque un effet de bord. Et ça, c'est génial. Quand je t'ai vu toi sur scène, tu t'es éclaté. Ça faisait plaisir à voir. Je me suis éclaté avec Mathieu. Chaque personnalité après, avant toi qui a intervenu, c'était ouf quand je revois les
vidéos. C'était vraiment génial. C'est pour ça que je me dis, j'espère qu'il y aura d'autres éditions et d'autres événements de ce type. Parce qu'effectivement, c'est bien de connaître des gens sur Internet, de connecter sur LinkedIn, etc. Mais il n'y a rien de mieux que de se réunir en vrai et d'échanger concrètement sur les expériences et les astuces de chacun, quoi.
Exactement. Et quand tu vois le nombre de conseils qu'on s'est filés entre nous, même les ateliers, ouais, moi j'ai kiffé la journée, quoi. Je suis reparti de là, j'étais sur ma, ouais, c'était génial.
Complètement. Mais écoute, je te remercie. On est arrivé à la fin de cet échange, de cette interview. Est-ce que tu as un ou deux épisodes à recommander pour démarrer avec ton podcast pour les auditeurs qui nous écoutent ? Par quoi est-ce qu'on devrait commencer ?
Enfin, y a, c'est une question qui est tellement difficile. Pour ceux qui aiment la musique, commencez par l'album Thriller de Michael Jackson. L'ingé son, en fait, c'est une fan de Michael Jackson et s'est vachement éclaté à faire des fondus, des musiques, à essayer de mixer tout sans se retrouver avec des problèmes de droit parce qu'il fallait faire moins de 8 secondes.
Quoique, il me semble que dans le cadre du podcast, tant que c'est là pour illustrer des propos, tu peux utiliser des musiques, des films,
oui,
etc. quoi.
Ouais, alors j'ai pas tout à fait. Tu vois, mon podcast est diffusé automatiquement sur YouTube.
Ah.
Il a d'abord été banné. Et après, je pense qu'il a été reviewed et il a été remis sur la plateforme. Effectivement, on a dû rentrer dans les clous. Mais voilà. Pour commencer, c'est un podcast facile à écouter. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y en a plusieurs qui je trouve sympas. L'histoire de Tony Hsieh, le fondateur de Zapateros, non, pas du tout, Zappos. Et une histoire, parce que moi, je suis basé à Marseille, qui me touche particulièrement, c'est l'histoire de Pernod Ricard, qui est super. C'est une histoire en deux épisodes qui est vraiment, vraiment sympa. Un start-upper avant l'heure, le mec, il est dans les années 30. Il y a 200 marques de Ricard. Et le mec, pendant 2 ans, il crée sa marque dans sa chambre. Il fait tester son Ricard tous les jours à des gens différents et il prend les feedbacks pendant 2 ans. Et à partir de là, il va affiner son produit jusqu'à avoir le meilleur Ricard de la région. Et exactement ce que je te disais avec mon podcast à moi, de feedback, et c'est feedback is a gift, comme disent les Anglais. Bah lui, il a fait ça et je trouve que c'est tellement comme quoi le concept de start-upper avec les feedbacks, c'est un concept qu'on n'a pas inventé, mais qui existe depuis longtemps et que les gens le faisaient, mais effectivement sans avoir théorisé ou avoir expliqué. Donc voilà les 3 épisodes, entre guillemets, à écouter sur... Il était une fois l'entreprise.
Mais merci beaucoup, je les mettrai dans la description, comme ça les gens n'auront plus qu'à cliquer et il n'y a plus aucune excuse pour ne pas aller écouter ces épisodes. Merci beaucoup Laurent, je mettrai également le lien de ton LinkedIn où tu es très actif et où on peut suivre ton actualité et tous les épisodes qui sortent. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin, pour les podcasteurs qui nous écoutent ?
Alors pour les podcasteurs, c'est un marathon, donc gardez-vous bien de voilà, c'est préparez-vous, mettez vos bonnes chaussures, soyez patient, il va falloir que voilà, ça va durer longtemps, mais ceux qui s'accrochent, c'est vraiment ceux qui sont motivés par le sujet qu'ils font quoi. Donc voilà.
Je confirme, je pense que ce meilleur conseil est le plus sous-coté pour le coup dans le cadre du podcast. Merci beaucoup Laurent.
Salut Sophia.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.